vendredi soir, pour la célébration du Vendredi Saint, nous avons rappelé que Jésus était l'homme qui marche sur les routes et les chemins de Galilée et de Judée, et qui, chemin faisant, appelle aussi les uns et les autres à le suivre. Vous avez vu les empreintes de pied que les enfants ont dessinées pendant la Sainte Cène. Et il appelle des disciples à le suivre, et il le fait de façon très concrète. « Prends tes affaires, ou plutôt laisse tes affaires et suis-moi. » Il demande à Pierre et André de quitter leur entreprise florissante de pêche, enfin florissante, je ne sais pas, et à Matthieu de quitter sa table de péage, et à Jacques et Jean aussi, les fils de Zébédée, à quitter leur filet, pour le suivre. Et il n'y a pas que les douze. La Bible nous montre qu'il y avait un groupe plus important de disciples que les simples douze, jusqu'à 70. Des femmes aussi, qui suivaient à distance, rapprochées parfois, pour préparer à manger aux disciples. Tout un groupe de disciples. Et tous se mettent en marche avec Jésus sur la route et ils vont à Jérusalem. Et Jérusalem est un petit peu le bout de la route, la fin du voyage. Et justement, on peut se demander, si Jérusalem est le bout de la route, la fin du voyage, que se passe-t-il après ? Pour les disciples, et pour qui avaient l'habitude de suivre Jésus, et pour nous après eux. Alors aujourd'hui, on ne peut pas suivre Jésus physiquement, concrètement. Est-ce qu'on va le suivre métaphoriquement ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le suivre métaphoriquement. Que veut dire pour nous marcher à la suite de Christ ? Et le titre du message de ce matin, c'est « Dans les pas du ressuscité ». Et il fait écho au titre de vendredi soir « Sur les traces de Jésus ». Mais est-ce que c'est tout à fait la même chose dans les pas du ressuscité et sur les traces de Jésus vers Jérusalem ? Il y a quand même un événement majeur entre les deux que l'on appelle résurrection. Mais qu'est-ce que ça change véritablement ? Pour le disciple qui marche. Et pour alimenter notre réflexion, il y a un événement dans la période de la résurrection et qui suit même la résurrection et qui fait en quelque sorte la transition. Et c'est dans le chapitre 24 de l'évangile de Luc. Et vous l'avez sur, vous n'avez pas tout le chapitre sur le memento, mais à la page centrale, il n'y a pas de diapo aujourd'hui. Et on y voit deux disciples qu'on pourrait appeler des disciples anciennes versions, qui font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils marchent, et ils marchent vers Emmaüs, un petit village à 10 kilomètres de Jérusalem environ. Et l'un s'appelle Cléopas et l'autre ne s'appelle pas. Son nom est personne. Il est anonyme. Ils ne font pas partie des douze. Cléopas ne fait pas partie des douze. Mais ce sont des disciples de Jésus quand même, on en a parlé tout à l'heure. Ce sont des suiveurs marcheurs. Mais aujourd'hui, je veux dire dans l'évangile de Luc au chapitre 24, ils ne suivent personne, en tout cas pas Jésus. Et ils ne sont que deux et ils ont l'air un peu perdus sur la route. Un peu, je ne sais pas si vous connaissez le film avec Bill Murray et Scarlett Johansson, Lost in Translation, perdu dans la traduction. Je ne l'ai pas vu le film, mais j'aime bien le titre. Et ces deux gars en marche, ils ont du mal à traduire, à interpréter les événements qu'ils viennent de vivre à Jérusalem. Ils ont vécu la montée de Jésus à Jérusalem. Ils ont vécu l'arrestation, le tribunal, la crucifixion. Ils ont entendu des rumeurs par rapport à la résurrection. Mais ils sont lost dans la traduction de ces événements pour eux. Ils l'appellent, dans le texte de Luc 24, ils appellent Jésus un prophète. Ils en sont restés au stade de prophète. Ils n'ont pas intégré, ils n'ont pas compris qu'il était le Messie qui devait mourir et ressusciter. Et donc, ils ne s'y retrouvent pas. Et dans le texte, il nous est bien dit qu'ils sont attristés. Vous l'avez en fin de paragraphe. Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Et pas seulement l'air. Ils le sont. Les jambes sont lourdes pour les disciples qui marchent ou qui avaient l'habitude de marcher. Le pas se fait lent. Le moral est dans les chaussettes. Mais Jésus va venir à leur rencontre et cela va tout changer. Alors, ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Il leur faudra un petit peu de temps pour que leurs yeux s'ouvrent. Verset 31 dans le texte. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Un petit peu de temps. Alors, on se demande, tous les lecteurs de la Bible se demandent comment ils n'ont pas reconnu Jésus tout de suite. Peut-être y avait-il quelque chose par rapport à l'apparence de Jésus, que le Jésus ressuscité n'était pas tout à fait comme le Jésus qui est monté à Jérusalem, et en tout cas pas pareil que le Jésus crucifié. Mais il faut savoir que quand la Bible ou les évangiles parlent des gens qui ne peuvent pas voir, comme au verset 16, comme on l'a lu, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Quand les évangiles parlent des yeux et de la vision, ils ne parlent pas tellement de l'acuité visuelle des personnes, mais de leur incapacité à comprendre, à appréhender justement. Je lis dans la note de la Bible Summer, dans les évangiles, la vue est souvent synonyme de compréhension et même de foi. Pour l'instant, nos deux amis sont encore perdus dans leur compréhension. Mais là, dans le récit, vient une phrase extraordinaire et qui change tout, en particulier par rapport à notre question du début, le changement dans la marche pour le disciple. La question, la phrase c'est « Et Jésus s'approcha et fit route ». Avec eux, c'est la première des phrases notées sur le memento. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et je ne veux pas trop forcer le texte, mais je vois là un premier changement par rapport à la marche du disciple, ancienne version entre guillemets. Ils ne sont plus en train de suivre un maître sur la route, un maître professeur prophète qui fixe la destination. Non, c'est Jésus, le Seigneur, qui s'approche d'eux et qui fait route avec eux. Jésus ne leur dit plus « Suivez-moi », mais il les accompagne sur le chemin, et qui est leur chemin, pas le chemin de Jésus. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Et Jésus s'approche et fait route avec nous sur notre chemin. Il est là maintenant à nos côtés, il marche avec nous et en nous. Et dans le récit des disciples d'Emmaüs, parce que c'est ça le récit de Luc 24, ils finissent par reconnaître Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussitôt Jésus disparaît, et ils se disent l'un à l'autre, mais oui, mais qu'est-ce qu'on a été bête? Et surtout ils se disent, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? N'avons-nous pas senti un feu dans notre cœur? Quelque chose de sa présence en nous. Alors bien sûr, il y aura la Pentecôte, et la Pentecôte n'a pas encore eu lieu, c'est-à-dire l'effusion de l'Esprit. Mais on peut voir dans ce passage, me semble-t-il, comme un avant-goût du don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme un feu intérieur, c'est la présence de Jésus dans notre cœur et qui nous accompagne jour après jour. Et Jésus ressuscité quitte ses disciples en leur disant dans Matthieu 28, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, par mon esprit, par ce feu qui brûle dans notre cœur, quand on lui fait toute la place. » Et il me semble que tout le Nouveau Testament va dans cette même idée, vous avez remarqué, peut-être en lisant les épîtres de Paul, même celles de Jean, de Pierre, de Jacques, que on ne parle plus trop de la notion de disciple, plus du tout même, et de suivre le Christ sur la route. On nous parle de courir vers le but. On parle aussi encore d'imiter Christ, ça c'est clair. D'avoir par exemple dans Philippiens 2, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais qui est devenu comme un serviteur. On nous demande, la Bible nous demande, Dieu nous demande par sa parole d'imiter Christ. Mais il ne s'agit plus de suivre Christ comme l'ont fait les disciples, ancienne version, mais de vivre sa présence au quotidien par le Saint-Esprit. sa vie en nous par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul a une expression que je trouve magnifique et qui me semble est en rapport avec ce que j'essaie de transmettre. Et elle revient très souvent dans les écrits de l'apôtre Paul. Il nous parle d'être en Christ. En Christ. Plus que des disciples qui suivent un enseignement, nous sommes désormais, en tout cas pour ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur, nous sommes désormais positionnés en lui. Nous sommes en Christ. En Christ, nous ne sommes plus comme des brebis errantes, où chacun ou chacune des brebis suivait sa propre voie, comme le dit Ésaïe dans le chapitre 53. Nous ne sommes plus dans l'errance ou dans le vagabondage. Nous sommes en Christ, positionnés en lui. Notre identité de marcheur sans domicile fixe est désormais en lui. Nous sommes des enfants de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants et par lequel nous pouvons crier « Abba Père ». En Christ, le disciple, nouvelle génération, est en Christ. Et si nous sommes toujours ses disciples, si nous sommes toujours en marche, il me semble que nous le sommes de manière un peu différente que les premiers disciples. Dans cette marche, Jésus nous accompagne par le Saint-Esprit, de sa présence par le Saint-Esprit, et nous sommes en Christ, bien positionnés dans notre nouvelle identité qui nous permet de marcher sur ce nouveau chemin. Et puis, il y a une autre belle et grande différence dans notre façon de marcher en tant que disciple, ou la vie chrétienne. Elle apparaît aussi dans ce récit, on va dire, transitoire des disciples d'Emmaüs. Elle apparaît quand les deux se retrouvent avec le gros de la troupe. Jésus disparaît de leurs yeux après ce repas qu'ils ont pris ensemble et au cours duquel les deux ont reconnu Jésus. C'est au cours du repas de la fraction du pain. Ils retrouvent le gros de la troupe des disciples. Et il y a une phrase qui ressort à la fin du passage de Luc 24. Tous les accueillirent par ces paroles, tous les disciples. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et c'est un peu une évidence, évidemment, de dire que la résurrection vient tout changer dans la vie du disciple. Mais il faut répéter cette évidence. Parce que si Jésus peut s'approcher des deux amis et faire route avec eux, c'est parce qu'il est ressuscité. S'il peut nous accompagner sur le chemin, notre chemin, c'est parce qu'il est ressuscité. S'il peut dire « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », c'est parce qu'il est ressuscité et parce qu'il est surtout vraiment ressuscité. Je parlais avec quelqu'un dernièrement qui me disait que la résurrection était pour lui une métaphore. Une belle métaphore de la vie plus forte que la mort. Et qu'il disait, cette personne-là, qu'elle n'avait pas encore assez de foi pour croire en la résurrection réelle. Et on peut vraiment la comprendre, et je la comprenais, la résurrection réelle du corps reste un pas de la foi important, même s'il y a de bonnes raisons. Et vous savez que j'aime cette expression, il y a de bonnes raisons d'y croire. Mais d'un autre côté, je disais à cette personne, il n'y a aucune raison de croire que dans la Bible, la résurrection serait présentée comme une métaphore. Personne dans la Bible, ni les disciples, ni Paul après, n'a parlé de métaphore par rapport à la résurrection. Et j'ai voulu dire à cet ami qu'il y avait un problème avec les métaphores. Vous savez quel est le problème avec les métaphores ? C'est que les métaphores ne font pas vivre. On peut prendre l'exemple de l'œuf de Pâques. Magnifique, cet œuf de Pâques, symbole de la vie. Surtout quand on ne le cuit pas, mais qu'on le laisse éclore, mais bon. Et c'est vrai, c'est beau un œuf, et surtout bon à manger quand il est en chocolat belge. Mais le symbole ou la métaphore de l'œuf de Pâques ne me donne aucune espérance pour la vie. Et le récit des disciples le dit bien, il est, dans Luc 24, réellement ressuscité. La résurrection n'est pas une vue de l'esprit pour les auteurs bibliques. Pas une métaphore, pas une hyperbole, pas un effet de style, mais une réalité. Et cette réalité va changer beaucoup de choses dans la marche du disciple, qui n'est plus un disciple à l'ancienne, qui marchait péniblement vers Jérusalem, la peur au ventre de savoir ce qui allait se passer, peur de la mort, peur de la fin de la route, peur du bout de la route. Le disciple à l'ancienne n'est plus « voici, le nouveau disciple est arrivé ». Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, Christ est réellement ressuscité. Pourtant, et nous ne sommes pas concertés avec Yvonne pour en parler, mais l'actualité de la semaine a été bien sombre. Les attentats à Bruxelles qui ont fait suite à ceux de Paris nous ont plongés dans la stupeur, de nouveau des tués, des blessés, des familles dont la vie se brise. Ce qu'Yvonne ne dit pas, c'est que Janet, qui est passée ici en août, qui a prêché ici en août dernier, c'est son amie d'enfance. Elle la connaît, ils se connaissent depuis qu'elles sont bébés. Et elle lui a téléphoné hier et pour dire que je vous avais dit par mail que les blessures étaient superficielles, mais elle passe ses journées à l'hôpital parce qu'elle a encore de la ferraille dans le corps à cause des bombes. Elle et son mari ont reçu les deux bombes. En pleine face. Une actualité bien sombre. Et le journal Réforme, le journal protestant Réforme, qui parle aussi de cette actualité tellement ténébreuse, des problèmes de pédophilie, a changé au dernier moment le titre de sa première page. Et ils ont choisi Pâques. Au cœur du mal. Ils ont choisi ce titre pour dire, je cite, que la victoire du ressuscité sur la mort était au cœur de la foi des chrétiens, quelle que soit la violence de l'activité, de l'actualité, y compris quand le mal prend un autre visage. Oui, parce que Christ est réellement ressuscité, nous pouvons relever la tête, et Fred et Janet le disent. Ils peuvent relever la tête dans l'espérance, vers l'assurance que le mal sous toutes ses formes n'aura pas le dernier mot dans nos vies. Le tombeau est vide, la mort n'a pas pu le retenir, le Christ est plus fort que la mort, il a vaincu la mort. Et même si la victoire sur cette mort ou sur le mal n'est pas encore totale, si l'arrière-garde du mal combat encore dans l'énergie du désespoir, parce que leur combat, le combat du mal est désespéré, le mal va être jeté dans l'abîme de feu. Nous pouvons d'ores et déjà vivre de cette espérance et être dans ce monde ténébreux, s'il en est, des vecteurs et des agitateurs de vie. Celle du ressuscité, ne baissons pas les bras, Christ est ressuscité. Et puis comme dernier point qui fait le changement du disciple à l'ancienne vers le disciple nouvelle génération, c'est en ce qui concerne la peur qui change de camp. Et en lisant les textes, pour préparer encore pour vendredi soir, les textes de la montée vers Jérusalem, j'ai été frappé de voir combien les disciples ne comprenaient rien à ce qui allait se passer. Mais qu'ils avaient quand même un petit peu peur de ce qui allait se passer à Jérusalem, comme s'ils pressentaient quelque chose. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem, Jésus marchait en tête, l'angoisse s'était emparé des disciples et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Les autres disciples, le grand groupe de disciples. Tout le monde est dans la phobos, la peur en grec. Tout le monde est dans la phobie. Peut-être qu'ils pressentaient sans rien, sans trop comprendre les choses, qu'ils pressentaient quelque chose malgré tout. Et cette peur va persister, elle va signer. Et elle va signer cette peur à des comportements phobiques chez les uns et chez les autres. Une peur chez Pierre qui lui fait renier sa foi ou son appartenance au groupe de disciples qui suivaient Jésus devant une simple servante qui ne présente aucun danger pour lui. Mais il renie trois fois et le coq chanta trois fois. Une peur qui fait que tous les disciples, un par un, mais tous ensemble, vont abandonner Jésus. La peur qui nous fait faire des choses qu'on ne veut pas faire. Comme aussi s'enfermer chez soi, par exemple, dans une maison privée, parce que les disciples n'en ont pas fini avec la peur, on les retrouve le dimanche soir, ce soir, on va les retrouver. Dans une maison privée, ils sont encore sous la peur, et je lis dans Jean 19, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Ils avaient peur de la Mossad de l'époque. Peur des autorités, peur d'être reconnus comme les disciples de celui qui était crucifié il y a 2 jours. Peur d'être arrêté, peur de s'être trompé sur toute la ligne. Peur d'avoir misé sur le mauvais cheval. Peur d'avoir raté leur vie. Et Jésus, le ressuscité, rentre dans la pièce et il dit « Shalom Aleichem » en araméen. La paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Tout en disant cela, il montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Que la paix soit avec vous, leur dit-il à nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il insiste, le texte le dit une deuxième fois. Shalom Aleichem. Que la paix soit avec vous, à tous ces disciples apeurés, non seulement parce qu'il apparaît, il croit voir peut-être un fantôme, mais aussi apeurés de leur avenir de disciples. Il leur dit « Shalom, la paix soit avec vous ». Et jamais shalom n'aura pris autant de sens que ce jour-là. Il n'est plus besoin d'avoir peur. Christ est réellement ressuscité. Il y a l'avant de la peur quand il montait vers Jérusalem et il y a l'après de la paix. Quand Christ est ressuscité, il y a le disciple à l'ancienne qui verrouille ses portes. Il y a le disciple du ressuscité qui les ouvre. J'ai un ami, pas missionnaire, mais qui est allé au Maroc pour un petit voyage missionnaire. Non, c'était un ami missionnaire. Et il m'a raconté qu'au Maroc, je ne sais pas dans quelle ville, mais les églises, elles ouvrent les fenêtres pour que les gens de la rue les entendent chanter. Et au Maroc, c'est pas bien vu, les chrétiens. Il y a de la persécution. Mais les chrétiens du Maroc, ils ouvrent les fenêtres de leur église pour que les gens de la rue, police ou pas police, les entendent chanter à la gloire du ressuscité. Alors on pourrait dire que c'est de l'inconscience ou de la provocation et qu'il faut respecter les autorités, mais c'est aussi le courage que donne la présence du ressuscité dans la vie de ces chrétiens. Et il me semble que ces Marocains marchent réellement dans les pas du ressuscité. Bon, je ne vous demande pas de faire pareil. D'ailleurs, nous, les portes sont fermées. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il semble que les disciples, ils aient pris ce courage. Parce que de la chambre verrouillée de l'intérieur avant, on les retrouve quelques semaines après, à Jérusalem, à l'extérieur, en train d'annoncer l'évangile sans se cacher à toute une foule de pèlerins venus du monde entier pour la fête de la Pentecôte. Pas de déguisement pour les disciples, ils sont à visage découvert et c'est ce qu'ils veulent, le faire à découvert, à l'extérieur. Ils veulent parler de tout ce qu'ils ont vu et entendu. Ils ne peuvent pas faire le contraire, ils ne peuvent pas se taire sur ce qu'ils ont vu et entendu. Ils ont rencontré le ressuscité, ce sont des disciples transformés. Et en ce dimanche de Pâques, nous pourrions nous poser la question de savoir si nous n'aurions pas besoin, nous aussi, de recevoir la visite du ressuscité, d'être revisité par le ressuscité. Parce que nous sommes parfois enfermés à double tour dans nos prisons intérieures, par peur des représailles de la vie, par peur des retours de manivelle. Et devant cette actualité mortifère, nous pourrions nous enfermer dans nos peurs. Mais le ressuscité veut nous visiter ce matin et nous dire « Shalom, shalom mes frères, que la paix soit avec vous. » Parce que je suis ressuscité, j'ai vaincu la mort, je suis vivant et je t'accompagne sur le chemin. Shalom. Le matin de Pâques, les femmes découvrent la pierre roulée et elles reprennent courage. Le soir, quand les disciples enfermés dans leur maison retrouvent leur maître vivant, ils reprennent courage. Quand, sur la route d'Emmaüs, les deux disciples reconnaissent le ressuscité, ils reprennent courage et ils reprennent leur marche en avant. Que le ressuscité nous visite ce matin. Que celui qui est réellement ressuscité nous rende visite ce matin pour allumer un feu tout au fond de notre cœur et pour que nous puissions nous mettre vraiment, ou mettre vraiment nos pas dans les pas du ressuscité. Amen.